Imaginons un scénario qui se déroule littéralement en ce moment même dans d'innombrables entreprises. On a un budget publicitaire, disons de 10 000 euros, qui est dépensé sur le mois. Les ventes réelles, genre celles qui tombent vraiment sur le compte bancaire, elles atteignent 30 000 euros.
Ouais, sur le papier, c'est un mois fantastique.
C'est ça, un excellent mois. Mais au moment d'ouvrir le tableau de bord analytique pour calculer la rentabilité, l'outil affiche seulement 15 000 euros de chiffre d'affaires généré. Il y a près de la moitié des données qui s'est volatilisée dans la nature.
C'est complètement fou quand on y pense.
Ah, mais la réaction logique, ce serait la panique totale. Enfin, comment piloter une entreprise si on est aveugle à la moitié de ses propres résultats? Mais c'est pourtant la réalité silencieuse de l'e-commerce aujourd'hui. Et du coup, l'objectif de notre décryptage du jour, en nous basant sur trois analyses pointues du cabinet Vanguard Edge Consulting, c'est de comprendre pourquoi tant de boutiques en ligne saignent financièrement.
Mmh.
Et la thèse centrale de ces documents, elle est fascinante. En fait, les sites e-commerce perdent des fortunes parce qu'ils sont construits et analysés selon des règles qui ont été pensées pour des blogs ou des sites vitrines, et pas du tout pour du commerce pur et dur.
C'est exactement le cœur du problème. En fait, on applique un pansement conçu pour une égratignure sur une fracture ouverte, quoi. Les sources que nous allons examiner aujourd'hui, elles mettent vraiment en lumière une déconnexion totale entre les méthodes traditionnelles de beaucoup d'agences digitales et la vraie réalité technique d'un catalogue de produits.
Ouais, c'est deux mondes différents.
Totalement. Et notre but ici, ce n'est pas juste de faire un inventaire de ce qui ne va pas. On va vraiment démonter la mécanique pour comprendre pourquoi des stratégies qui sont censées faire exploser le trafic finissent en fait par cannibaliser les ventes.
Mmh.
On va voir pourquoi l'obsession pour la vitesse de chargement, ça masque très souvent des erreurs d'architecture fatales. Et enfin, on parlera de la façon dont l'infrastructure même du web d'aujourd'hui est en train de détruire silencieusement la remontée des données financières et comment une approche qu'on appelle « server-side » permet de colmater cette suite.
Ok, décortiquons ça un instant, parce qu'on va commencer par ce qui ressemble au plus grand malentendu de l'industrie. Les documents de Vanguard Edge y soulignent un réflexe presque pavlovien chez beaucoup d'agences généralistes quand elles prennent en charge un e-commerce. Elles proposent tout de suite de créer un blog, d'acheter des liens, ou de mettre en place ce fameux truc qu'on appelle des cocons sémantiques.
Ouais, alors précisons un peu ce terme de cocon sémantique pour être sûr que tout le monde ait bien le même niveau de compréhension.
Vas-y, je t'écoute.
En gros, c'est une stratégie qui consiste à créer une architecture avec, disons, des dizaines d'articles purement informatifs. Ils sont tous liés entre eux autour d'un sujet central. Le but, c'est de montrer aux moteurs de recherche qu'on est vraiment l'expert absolu du domaine.
Genre devenir une encyclopédie sur un sujet, quoi.
C'est ça. Par exemple, tu vas faire 20 articles sur l'histoire du cuir, l'entretien du cuir, les différents types de cuir, etc. Et c'est une excellente stratégie, hein, mais pour un média en ligne ou, une entreprise de logiciels qui a besoin d'éduquer son marché avant de vendre.
Ouais, sauf que, d'après les sources, pour une boutique en ligne, 80% du trafic commercial ne se joue pas du tout sur ce type de contenu. Ça se joue, en fait, sur les pages de collection.
Exactement.
Mais là, il faut quand même que je me fasse l'avocat du diable une seconde. Si on regarde les géants du e-commerce, ou même de très grandes marques de cosmétiques, ils ont tous des blogs hyper fournis. S'ils le font et qu'ils injectent du budget là-dedans, c'est bien que ça fonctionne, non? Ils jettent pas l'argent par les fenêtres.
Ah, mais c'est une super question. La nuance ici, elle réside vraiment dans ce qu'on appelle l'intention de recherche.
Ok.
Ces très grandes marques, elles utilisent le blog pour faire de la notoriété tout au début du parcours client. Tu sais, quand la personne cherche juste de l'inspiration, qu'elle flâne un peu.
Ouais, je vois le genre.
Mais au moment de générer du vrai chiffre d'affaires, la mécanique change complètement. Ce qui est fascinant ici, c'est que si une personne tape, je sais pas, chaussures de running pour homme taille 43, l'intention n'est plus du tout informative, elle est purement transactionnelle.
C'est clair.
Cette personne-là, elle ne veut absolument pas lire un article de 2000 mots sur l'évolution de la semelle en carbone depuis les années 90. Elle veut juste voir une grille avec 50 produits, pouvoir trier par prix, choisir sa couleur et sortir sa carte bancaire, quoi.
Et bim, conversion.
Voilà, les pages de collection, ce sont les véritables landing pages, les vraies pages d'atterrissage commerciales du e-commerce. Et le drame avec les agences classiques, c'est qu'elles allouent presque tout le budget SEO à du contenu informatif qui, au final, ne convertit pas directement.
Tout en délaissant complètement la structure de ces fameuses collections, c'est ça?
C'est exactement ça, oui.
Ce qui nous amène directement à une erreur technique majeure qui est hyper bien documentée dans les textes, la cannibalisation. Et l'exemple qu'il donne, franchement, il illustre parfaitement comme on peut ruiner ses propres efforts et surtout son ROI.
Mmh.
Prenons une boutique qui vend des articles de sport. Avec les meilleures intentions du monde, l'équipe se dit « on va capter un maximum de trafic ». Du coup, il crée une page « chaussures running homme », une autre page « running homme » et puis une troisième « chaussures de course homme ». Sur le papier, on se dit « génial, on a tissé une toile parfaite pour attraper tous les mots-clés possibles ».
Sauf que techniquement, c'est l'inverse absolu qui se produit. C'est littéralement un suicide algorithmique.
Carrément.
Ah oui, carrément. Pour comprendre pourquoi, il faut se mettre une seconde à la place du robot d'indexation de Google. Il arrive sur le site, il analyse ses trois pages et il constate qu'elles répondent à la même intention de recherche.
Ben oui, au final, c'est le même produit.
Exactement. Le robot doit alors choisir laquelle des trois est la meilleure pour l'utilisateur. Mais comme le site a complètement dilué son autorité interne, en créant trois pages concurrentes au lieu d'une seule qui serait très forte, ben aucune ne se détache du lot.
Aïe.
Et Google, il déteste l'ambiguïté. Face à ce doute, l'algorithme ne choisit aucune des trois pages. Résultat des courses, au lieu d'avoir une collection puissante qui écrase les résultats de recherche, on se retrouve avec trois pages médiocres qui n'apparaissent nulle part face à des concurrents qui, eux, ont su centraliser leurs forces.
Et le pire, c'est que la cannibalisation n'est même pas le problème d'architecture le plus destructeur mentionné dans l'article. Il y a un autre truc, ils appellent ça les bombes SEO. Et honnêtement, le terme n'est pas exagéré. On parle des filtres à facettes.
Ah, les fameux filtres.
Ouais, quiconque a déjà acheté en ligne connaît ça. On coche une case pour la taille, une autre pour la couleur, une autre pour le prix. C'est génial pour l'utilisateur. Mais mathématiquement, sous le capot du site, c'est juste terrifiant. Parce que le système génère automatiquement une nouvelle URL pour chaque combinaison possible.
C'est ça.
Taille 42, plus rouge, plus Nike, plus moins de 100 euros, hop, ça fait une URL. Taille 43, plus rouge, hop, une autre URL. Et on arrive très vite à des millions de pages générées de manière artificielle.
Et c'est précisément là qu'intervient une notion technique qu'il faut absolument démystifier aujourd'hui. Le crawl budget ou budget d'exploration. En fait, il faut bien comprendre que Google n'a pas des ressources serveurs infinies.
Ah bon ? On imagine toujours que si, pourtant.
Ben non. Il alloue un temps spécifique, un vrai budget, à chaque site web pour découvrir ses nouvelles pages. Alors, que se passe-t-il avec ces fameux filtres à facettes si on ne les bloque pas ou qu'on ne les maîtrise pas ?
Ça doit être le chaos.
C'est le chaos. Le robot de Google entre dans la boutique. Il commence à suivre les liens des filtres et il s'engouffre dans un labyrinthe infini. Il passe des heures, littéralement des heures, à explorer des milliers de combinaisons de tailles et de couleurs qui, au final, affichent presque les mêmes produits.
C'est un gaspillage monumental, quoi.
Totalement. Il s'épuise sur des pages dupliquées et inutiles. Et la conséquence dramatique de ça, c'est que son budget d'exploration est vidé avant même d'avoir pu découvrir les vrais nouveaux produits de la saison ou les collections stratégiques qui ramènent de la marge.
Bah franchement, au final, faire du contenu de blog à gogo et laisser ses filtres ouverts, parce que c'est ce que tout le monde fait, c'est absurde. Faire appel à une agence classique pour un e-commerce, c'est un peu comme, comme amener une raquette de tennis sur un tournoi de golf, quoi. Le matériel est super bon. C'est du haut de gamme, mais c'est juste pas le bon sport, non ?
Ah, mais je valide complètement cette analogie. La stratégie e-commerce, elle ne repose pas sur la création de pages infinies. Elle repose sur la façon dont on organise et on relie les pages qui existent déjà et qui génèrent du profit.
Ce qui m'amène d'ailleurs directement au point suivant de l'article, et c'est un faux débat monumental. L'obsession toxique pour le page speed, ou le temps de chargement.
Ah oui, le fameux score Lighthouse. Pour clarifier, Lighthouse, c'est un outil gratuit de Google qui donne une note de 0 à 100 sur la performance technique et la vitesse d'une page. Et c'est devenu malheureusement l'indicateur de vanité par excellence.
C'est clair, l'article est hyper sarcastique à ce sujet et à juste titre. On voit des entreprises facturer des dizaines et des dizaines d'heures de développement juste pour grappiller 2 millisecondes et faire passer un score de 90 à 98. L'agence fait une super belle capture d'écran, le client est ravi, on sabre le champagne, le développeur est félicité. Sauf que le trafic organique, il reste complètement plat. Zéro augmentation des ventes.
Et oui.
Mais du coup, je me demande, Google lui-même ne martèle-t-il pas sans arrêt l'importance de la vitesse avec ses fameux Core Web Vitals ? Est-ce que l'article de Vanguard Edge sous-entend qu'il faut carrément ignorer les consignes officielles de Google ?
Non, pas du tout. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, il faut juste faire preuve de pragmatisme. Avoir un site extrêmement lent, c'est une mauvaise chose, évidemment, surtout sur mobile où les gens n'ont aucune patience.
Ça, c'est sûr.
Mais l'argument de la source, il porte vraiment sur la hiérarchie des priorités. Google ne classe pas des scores de vitesse. Il classe des pages qui apportent une réponse cohérente et utile.
Ouais, le contenu prime.
Voilà. Une fois qu'un site charge dans un temps acceptable, disons moins de 3 secondes, ben, passer de 2 secondes à 1 seconde, ça ne va pas bouleverser ton positionnement SEO si la structure de ton catalogue est nulle. Dépenser de milliers d'euros en micro-optimisation de code alors que tes collections sont invisibles, c'est juste passer à côté du vrai levier.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce vrai levier de croissance, qui est d'ailleurs gratuit ou presque selon l'audit, c'est le maillage interne. Vanguard Edge affirme que ce point représente à lui seul 40% des recommandations d'amélioration lors d'un audit.
C'est énorme.
C'est colossal. Et tu sais, on utilise souvent l'analogie de la voiture de course pour parler de la vitesse d'un site. Mais franchement, avoir un score PageSpeed de 98 avec un maillage interne pourri, c'est comme avoir une Ferrari avec un GPS cassé. La voiture va très très vite, c'est super, mais elle va s'encastrer directement dans le premier mur venu.
J'adore. Mais c'est vrai, moi j'aime bien aussi l'analogie du supermarché. Imagine un supermarché magnifique, super lumineux, avec des portes automatiques ultra rapides, mais à l'intérieur, les rayons forment un labyrinthe sans aucun panneau indicateur.
L'enfer.
Pire, le lait est caché derrière une porte dérobée au rayon des téléviseurs. Ben, le client, il avance vite, certes, mais il ne trouve rien.
Ouais.
En SEO, c'est pareil. Chaque lien interne, entre deux pages, ça agit comme un tuyau qui transmet de l'autorité, ce fameux PageRank. Plus une page reçoit de liens pertinents de son propre site, plus elle est considérée comme importante par l'algorithme. Le maillage interne, c'est les panneaux du supermarché. Si ta page d'accueil ne fait pas de lien vers la collection chaussures de sport, Google se dit ben, « cette page n'est pas importante ».
C'est fou que ce soit aussi binaire, mais c'est logique. Et l'article propose un diagnostic super pratique en 3 étapes pour vérifier l'état de ce réseau routier interne.
Tout à fait.
Première étape, est-ce que les collections sont liées entre elles au sein même du texte? Et l'auteur insiste lourdement là-dessus. On ne parle pas juste du menu déroulant tout en haut du site, hein. L'algorithme a tendance à banaliser ces menus. Il faut des liens contextuels directement dans le corps de la page.
Exactement. Et la deuxième étape, est-ce que les fiches produits pointent en retour vers leur collection parente? Ça, c'est une erreur classique.
Comment ça?
Imagine un produit star qui attire énormément de trafic naturel. Mais il n'y a aucun lien dessus pour remonter vers la catégorie générale. C'est tout ce jus de lien, toute cette autorité qui s'évapore dans le vide.
Ah ouais, le potentiel gâché, quoi. Et la troisième étape de ce diagnostic, c'est la détection de ce qu'ils appellent les pages orphelines. Et ça, c'est critique pour le ROI. Une page orpheline, en gros, c'est une page qui existe sur le serveur. On peut la voir si on tape l'URL exacte, mais aucun autre endroit du site ne fait de lien vers elle.
Ou alors elle est tellement enfouie qu'il faut genre 6 clics depuis l'accueil pour y arriver.
C'est ça. Et pourquoi c'est un problème financier majeur? Parce que l'algorithme, il fonctionne en suivant des liens. S'il n'y a pas de lien, ben le robot abandonne. La page devient virtuellement invisible et les produits qui sont dessus ne se vendront jamais en organique. L'article conseille d'ailleurs d'utiliser des outils comme Screaming Frog.
Ouais, qui simule le robot de Google pour trouver ses pages perdues.
C'est ça. Et alors là, on arrive à la transition parfaite. Parce qu'une phrase m'a vraiment marqué dans les textes. Un maillage cassé ne fait pas que nuire à votre positionnement, il fausse également votre attribution e-commerce.
Ah, ça c'est le point de bascule. La mécanique derrière ça, elle est implacable. Si le supermarché est un labyrinthe, le comportement de l'utilisateur devient complètement erratique.
Forcément, il est perdu.
Voilà. Il clique sur une catégorie, il ne trouve pas, il fait retour sur son navigateur, il s'agace, il quitte le site. Et peut-être qu'il reviendra 2 jours plus tard en cliquant sur une pub Facebook. Mais pour ton outil d'analyse, ce parcours n'est plus du tout une ligne droite. Ce sont des sessions fragmentées. Les données qui remontent sont donc fondamentalement faussées par la mauvaise architecture.
Sauf que, et c'est là le drame de notre fameux scénario du début, l'architecture, c'est pas la seule raison pour laquelle les données disparaissent, loin de là.
Et non.
Ce qui nous amène à la troisième section de notre analyse, l'angle mort financier, le tracking. Et les chiffres avancés par Vanguard Edge font vraiment l'effet d'une douche froide. Ils disent qu'utiliser Google Analytics 4, donc GA4, dans sa configuration classique qu'on appelle client-side, ça entraîne aujourd'hui une perte de 20 à 40% des données de conversion.
C'est colossal.
40%. Je veux dire, comment on est passé d'une ère où on pistait chaque clic au millimètre près à un monde où presque la moitié des ventes réelles sont totalement invisibles pour les algorithmes qui gèrent nos pubs?
Pour bien comprendre ce désastre, il faut décortiquer ce que signifie le client-side. C'est le suivi côté client, donc côté navigateur.
OK.
Historiquement, quand un utilisateur achetait un produit, le code de Google Analytics installé sur le site demandait directement au navigateur de cet utilisateur, genre Chrome ou Safari, d'envoyer un signal à la régie publicitaire pour dire « Hé, une vente a eu lieu ».
Le navigateur faisait le facteur, en gros.
Exactement, c'est la donne image. Sauf que les règles ont changé. Les utilisateurs ont installé des bloqueurs de pub, massivement. Et puis les géants de la tech s'en sont mêlés. Apple, notamment, a déployé un système redoutable, qui s'appelle l'ITP, pour Intelligence Tracking Prevention.
Et je crois qu'il faut vraiment s'arrêter là-dessus. Parce que beaucoup de dirigeants pensent que cette ITP, c'est juste une petite case à décocher dans les réglages de l'iPhone.
Ah non, non, pas du tout. L'ITP, ce n'est pas passif. C'est un mécanisme hyperactif intégré en profondeur dans Safari. Son rôle, c'est de repérer et de détruire agressivement les cookies que les marketeurs utilisent pour suivre les gens.
Waouh !
Et si on ajoute à ça le RGPD en Europe, ben le résultat est sans appel. Le navigateur, ce n'est plus du tout un facteur obéissant, c'est devenu un mur fortifié. Quand un achat a lieu, le signal essaye de partir vers Facebook, mais le bloqueur ou l'ITP le tue dans l'œuf. Le client-side est devenu aveugle.
C'est fou de voir comment l'infrastructure même d'Internet a muté. Mais heureusement, le cabinet propose une solution technique pour contourner ce mur en toute légalité. C'est le passage au server-side.
Mmh. Et leurs recommandations s'appuient sur une espèce de trinité technique. GTM server-side, Elevar et Triple Whale. Comment ça marche concrètement? En quoi ça change la donne?
C'est un changement de paradigme. Au lieu de demander au navigateur capricieux d'envoyer la donnée, on utilise un relais de confiance. Quand l'achat a lieu, le site web envoie l'info à son propre serveur.
Un serveur que l'entreprise contrôle. Voilà, un sous-domaine interne. Et ce serveur privé, il échappe aux bloqueurs de pub parce qu'il fait partie intégrante du site. Une fois que la donnée est bien au chaud sur ce serveur, c'est lui-même qui va communiquer en direct, de serveur à serveur, avec Meta ou Google. On a complètement retiré le navigateur de l'équation.
Ok, le chemin est sécurisé. Mais la source insiste énormément sur Elevar. Ils le décrivent comme une couche data layer absolument indispensable, surtout si on est sur Shopify. Mais pourquoi on aurait besoin d'un outil en plus si le serveur fait déjà le job?
Parce que transmettre la donnée, c'est bien, mais il faut qu'elle soit compréhensible.
Ah.
C'est le rôle du data layer, la couche de données. Disons que le code brut de Shopify, c'est un dialecte très complexe. Quand une vente tombe, les infos genre l'identifiant du produit, la taxe, la devise, elles sont un peu désordonnées. Facebook ou Google, ils parlent pas ce dialecte.
Ok, je vois.
Elevar, c'est le traducteur universel en temps réel. Il intercepte le langage chaotique de Shopify, il nettoie la donnée, il la formate parfaitement et il la place dans ce data layer avant de l'envoyer au serveur. Sans ça, tu envoies de la bouillie et ton tracking est toujours faux.
Le traducteur universel, c'est limpide. Et pour finir la boucle, il y a Triple Whale pour ce qu'ils appellent l'attribution multi-touch. Là, on frôle le jargon, mais en gros, ça permet de reconstruire l'histoire de l'achat.
Exactement.
Comprendre que le client a vu un TikTok le lundi, cliquer sur une pub Meta le mercredi, pour finalement acheter le vendredi sur son ordi.
Et sans le server-side et Elevar, chaque étape aurait été attribuée à un client différent, ruinant le calcul de ton ROI sur TikTok ou Meta.
Les résultats cités justifient largement de s'y pencher. Plus 35% de récupération de données de conversion en moyenne. C'est juste énorme. Et on le rappelle, hein, on ne crée pas de vente par magie, on retrouve la vue sur ce qui existait déjà. Mais au final, est-ce qu'on doit tous devenir des ingénieurs data du jour au lendemain pour vendre des t-shirts?
Cela soulève une question importante. En fait, l'approche de Vanguard Edge est très pragmatique. Pour Shopify, l'urgence, c'est d'implémenter Elevar en premier. C'est accessible.
D'accord.
Pour WooCommerce, c'est plus technique, on passe souvent direct par GTM server-side. Mais la règle d'or, et c'est ce qui lie tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ne jamais construire ce tracking ultra précis sans avoir d'abord réparé le SEO et le maillage interne. Sinon, on fait que mesurer avec une précision chirurgicale un site qui coule.
Réparer la coque avant d'installer un radar HD. C'est exactement ça le message à retenir. Inverser ses priorités. Arrêtez de cramer des budgets dans des articles de blog hors sujet ou des scores de vitesse qui flattent l'ego. L'urgence, c'est de consolider ses collections, lier intelligemment ses pages pour que le jus circule et implémenter une base de tracking solide comme Elevar pour enfin voir ses vraies conversions.
Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, j'aimerais proposer une dernière réflexion qui va un peu au-delà de nos sources. On a vu comment sauver nos données face aux navigateurs qui nous bloquent.
Ouais.
Mais projetons-nous un peu. Que va-t-il se passer quand les moteurs de recherche basés sur l'IA générative répondront directement aux requêtes transactionnelles?
Oula, oui.
Imagine, l'IA synthétise ton offre, propose le choix de la pointure et valide l'achat sans même envoyer le visiteur sur ta boutique en ligne. Aurons-nous encore des conversions classiques à traquer ou la transaction se fera-t-elle à 100% dans l'interface de l'IA?
C'est vertigineux comme perspective. Et c'est une raison de plus pour structurer techniquement nos catalogues à la perfection dès aujourd'hui pour que l'IA de demain puisse au moins lire nos produits. Sur ce, merci de m'avoir suivi dans cette analyse fascinante. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.